Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la Centrafrique. Ce pays de 4,5 millions d'habitants totalement enclavé au centre du continent, voisin du Tchad, du Soudan du Sud, de la République démocratique du Congo et du Cameroun, ne parvient pas à se sortir des plus grandes difficultés 4 ans après le début de la guerre civile et de l'intervention des militaires français. 2016 a marqué la fin de l'opération Sangaris alors que le pays semblait sur la voie de la pacification. Cette semaine à New York, où se tient l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, le président centrafricain a demandé un renforcement substantiel de la MINUSCA, dont le mandat est appelé à être renouvelé en novembre prochain. Jusqu'à présent, la mission de l'ONU, forte de quelques 12 000 hommes, n'est pas parvenue à s'opposer aux forces qui dévorent le pays. Pourquoi la stabilisation de la Centrafrique est-elle si difficile? La France est-elle condamnée à se réengager? Quelle sortie de crise et quelle solution durable pour la Centrafrique? Nos invités par téléphone depuis Bordeaux, Christian Bouquet, professeur émérite à l'université Bordeaux-Montaigne, membre du laboratoire Les Afriques dans le Monde de Sciences Po Bordeaux, bonjour.
Bonjour.
En studio, Delphine Lecoutre, coordinatrice République Centrafricaine, Tchad et Gabon pour Amnesty International France, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Pierre Tucois, ancien journaliste au journal Le Monde, auteur de Oubangui Chari, le pays qui n'existait pas, aux éditions La Découverte, bonjour.
Bonjour.
L'opération française Sangaris a donc pris fin en 2016, un an après le départ des soldats français. Le sous-secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires dénonce les signes avant-coureurs d'un génocide en Centrafrique. Christian Bouquet, la situation est-elle à ce point inquiétante ?
Ben, probablement, parce que Stephen O'Brien, il y a quelques jours, effectivement, a tiré la sonnette d'alarme, mais ce n'était pas la première fois. Il avait déjà agité l'idée d'un génocide en janvier dernier. Et ces dernières semaines, un certain nombre d'ONG installées sur le terrain confirment qu'il y a en effet des risques d'affrontement en apportant les précisions suivantes sur des bases ethniques et sur des bases religieuses. Donc en effet, on peut imaginer que les signes avant-coureurs d'un génocide sont bien là et on serait sans doute, la communauté internationale en tout cas, serait bien inspirée d'y prêter davantage attention.
Jean-Pierre Tucois.
Oui, je peux qu'approuver ce que vient de dire Christian Bouquet. On a eu des informations très alarmistes. On a bien vu que, notamment, il y a un évêque, Monseigneur Aguirre, qui a donné refuge dans une église à des milliers de musulmans qui sont encerclés par des milices anti-balaka, donc des milices chrétiennes, pour aller vite. Et tout ça, finalement, c'est un exemple, mais on pourra en trouver plusieurs. Et effectivement, je pense que le pays est au bord du gouffre. Effectivement, on peut craindre un génocide dans ce pays.
Alors, le pays au bord du gouffre, on y reviendra pour comprendre quelle est la situation économique du pays. Delphine Lecoutre, la situation sur le plan humanitaire, je le disais en introduction, 4,5 millions d'habitants en Centrafrique et un nombre qui est évalué à plus d'un million de personnes réfugiées, à la fois réfugiées intérieures, mais aussi dans les pays voisins de la Centrafrique. Delphine Lecoutre.
Tout à fait, la situation est extrêmement alarmiste. Ceci dit, nous, à Amnesty International, nous avons récemment mené une mission au mois d'août en basse coteau, où en fait, à travers les enquêtes de terrain, on a relevé beaucoup de témoignages d'actes de torture, de pillage, de déplacements forcés de populations qui sont imputables à une ramification en fait de la CELECA, l'Union pour la paix en Centrafrique. Ceci dit, s'il y a de très très nombreuses exactions, il y a des viols, des homicides, pour autant, on n'a pas d'informations quant à l'existence d'un réel génocide. Parce que pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait une population ou une ethnie, un groupe bien précis qui soit ciblé, que ça se fasse de manière extrêmement massive. Donc, pour nous, on ne peut pas encore parler de génocide. Ceci dit, les propos alarmistes de M. O'Brien sont probablement dus au fait de la volonté des Nations Unies de pousser les États à réagir pour que toutes ces exactions cessent.
Alors, Christian Bouquet, comment expliquer la situation dans laquelle la Centrafrique se trouve aujourd'hui? C'est un pays qui, historiquement, va de crise en crise, et on pensait tout de même une stabilisation depuis ces dernières années, et finalement, ce à quoi on assiste, c'est une prolifération depuis 2014 de groupes armés, un nouveau président, le président Touadéra. Est-ce que le salut peut venir du président actuel Touadéra, Christian Bouquet?
Bon, c'est difficile à dire, même s'il a pris une initiative il y a quelques jours, l'initiative d'inclure dans son gouvernement des représentants des milices armées, sans doute pour illustrer le vieil adage selon lequel ça coûte moins cher d'acheter ses opposants que d'acheter des armes. Mais ça ne marchera probablement pas, parce qu'il y a des centaines de milliers d'armes qui circulent dans ce pays. Le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion ne peine à démarrer. Et puis, il y a d'autres faits qui aggravent encore le tableau qu'on est en train de brosser. D'abord, l'intervention de Jean-Pierre Tucquoy permet de rappeler que le titre de son livre aurait peut-être pu être aussi « Le pays qui n'existe pas », qui n'existe toujours pas, donc qui est un peu oublié. Ensuite, l'intervention de l'évêque à propos des musulmans enfermés dans la région de Bangassou rappelle que l'armée de résistance du Seigneur est également active dans cette région de la Centrafrique, donc ça aggrave encore la situation. Et puis un mot sur le chiffre de réfugiés et déplacés, parce que c'est évidemment une catastrophe humanitaire, mais aggravée par le fait que ce sont essentiellement des ruraux, et que quand vous avez un Centrafricain sur quatre qui n'habite plus dans son village ou dans son campement d'origine, ça veut dire que la récolte de produits vivriers sera probablement nulle dans les mois qui viennent. Donc on aura en plus sans doute une famine, en tout cas une crise alimentaire.
Jean-Pierre Tucquoy, le remaniement ministériel qu'évoquait à l'instant Christian Bouquet, annoncé donc la semaine dernière, il surprend évidemment avec l'entrée au gouvernement de proches de ministres au nom de la sacro-sainte réconciliation nationale, et alors que ces mêmes groupes sèment la violence dans l'intérieur du pays. La marge de manœuvre de Touadéra, elle est extrêmement mince.
Je suis pas sûr qu'elle soit si mince que ça. Je crois que moi j'étais en Centrafrique au moment de l'élection présidentielle et j'ai vu la ferveur qui entourait la candidature de Touadéra. Finalement, les Centrafricains le connaissaient pas très bien, mais ce qu'ils avaient retenu, c'est que pendant qu'il était premier ministre de Bozizé, donc du régime antérieur précédent, il avait continué à faire des cours à l'université et donc il est apparu comme un homme propre, qui n'était pas corrompu. Et il a fait toute sa campagne là-dessus et ça a marché. Il a été élu à la loyale comme un homme nouveau qui n'était donc pas corrompu. Aujourd'hui, on est bien obligé de constater qu'il a profondément déçu. C'est un homme assez fallot. C'est un homme qui n'a pas pris de grandes décisions, qui voyage beaucoup à l'étranger. Mais sur le plan pratique, la situation s'est détériorée sous sa présidence. Et moi, je suis très déçu de la présidence Touadéra. Dans son entourage, il a des gens très peu recommandables. Il y a des gens de l'ancienne équipe de Bouzizé qui grenouillent autour de lui. Et je crois que ce sont des gens malfaisants. Et je crois que tant qu'il n'aura pas pris le dessus sur ces personnes-là, qu'il ne les aura pas éliminées, enfin écartées, je vois mal le pays se redresser. Donc je pense que Touadéra porte une large part de responsabilité dans les événements actuels.
Christian Bouquet, vous partagez ?
Oui, et puis il contrôle de moins en moins son pays. On dit que son autorité ne dépasse pas le kilomètre 5, parce que les chefs de milice se sont installés dans la configuration des zones grises qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'ils s'installent sur des richesses minières à haute valeur ajoutée, en particulier le diamant. Et avec le commerce du diamant, ils peuvent s'acheter des armes, s'acheter des mercenaires et contrôler chacun une petite partie du territoire. Donc vous imaginez la difficulté qu'il va y avoir à reconquérir l'intégrité territoriale de la Centrafrique.
Delphine Lecoutre.
Ceci dit, du point de vue des droits humains, on peut tout de même mettre au crédit du président Touadéra. Tout d'abord, d'avoir fait tout un plaidoyer auprès de la communauté internationale lors d'une conférence des donateurs en novembre 2016 pour obtenir des fonds pour financer la Cour pénale spéciale.
On
Et d'autre part, son insistance récurrente donc à lutter contre l'impunité en Centrafrique, qui est quand même à la base du cycle de violence, Son insistance récurrente est face à un certain nombre d'acteurs, dont certains États voisins, qui prônent de se passer de l'impunité pour le moment et de privilégier un dialogue inclusif avec l'ensemble des groupes armés. Voilà. Donc on peut mettre au moins ça à son crédit.
Vous semblez pas, Jean-Pierre Tupois,
pas vraiment convaincu. Non, c'est, il a fait ça peut-être, mais c'est pas grand-chose par rapport au chantier énorme auquel il est confronté et auquel il devrait s'attaquer, me semble-t-il. Donc moi, je lui donne pas un satisfait site, non, même là-dessus.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors peut-être que c'est important de revenir sur la situation économique. Vous parlez, Jean-Pierre Tucois, d'un pays qui est ruiné. Vous dites qu'il est au fond du gouffre. Ce qu'évoquait précédemment Christian Bouquet, vous parlez d'une agriculture en lambeaux, la production de coton, de café qui est dérisoire, tout comme celle d'or et de diamants écoulée en fraude. Et vous parlez d'un pays qui vit de la charité internationale.
Oui,
la question qui vient, c'est comment est-ce que le potentiel est là, comment est-ce que on en est arrivé à la situation que connaît le pays. On parlera peut-être aussi de l'environnement régional et des voisins.
On va pas en faire l'histoire, mais c'est vrai que le pays souffre beaucoup, je pense, d'un manque d'élite politique. Les dirigeants politiques de ce pays, et de longue date, presque depuis l'indépendance, ne se sont pas montrés à la hauteur. Je crois que tous les présidents qui se sont succédés, la plupart sont arrivés au pouvoir par la force, ils ont été d'une médiocrité rare. Et je crois qu'avec eux, le pays n'a cessé de s'enfoncer progressivement. Donc tout ça, c'est une histoire assez ancienne. Je crois par ailleurs que le pays, du point de vue économique, il pourrait s'en sortir. Il est doté d'une agriculture potentiellement très très riche. Il pourrait nourrir tous les pays voisins. Mais je pense quand même que le facteur politique est un facteur très très important, et je pense également que le contexte régional ne facilite pas la résolution d'une crise. Tous les pays voisins sont eux-mêmes confrontés à des tas de problèmes, style le Tchad, enfin le Sud-Soudan. Au Sud-Soudan, il y a quand même encore plus de violence qu'en Centrafrique. Donc quand vous êtes au milieu d'une région comme ça, confrontée à des problèmes très très graves, bah c'est pas facile de s'en sortir, non, ça c'est sûr.
Christian Bouquet, le manque d'élite politique, le rôle de la France en Centrafrique, il a été longtemps important, c'est une ancienne colonie. Finalement, qu'est-ce que l'on peut dire que la France fait partie de la solution en Centrafrique ?
Il faut peut-être revenir justement sur cette période de l'Afrique équatoriale française pour rappeler que la Centrafrique, dans ses frontières actuelles, a été vraiment très mal découpée. C'est bien expliqué dans le livre de Jean-Pierre Tucois, d'ailleurs. C'est un pays qui a été découpé de manière à ce qu'il soit aujourd'hui enclavé, alors qu'il aurait pu être imaginé, comme l'avait pensé pendant un temps Barthélemy Boganda, le père de l'indépendance, avant sa mort, rattaché aux pays voisins de l'AEF, et en particulier ceux qui avaient une ouverture sur la mer. À ce moment-là, on aurait peut-être pu imaginer économiquement des complémentarités régionales. Bon, ça ne s'est pas fait. Ensuite, c'est vrai que ce pays a été à la fois un petit peu oublié et maltraité et pas pris parmi les priorités de la colonisation française. Mais ensuite, les explications qui viennent d'être données sont bonnes. Il n'y a pas eu d'élite politique suffisamment visionnaire pour sortir ce pays de la mauvaise situation dans laquelle il avait été créé.
L'opération Sangaris, est-ce que on peut dire, on peut rappeler que les militaires français sont donc partis en 2016, est-ce que la France a eu raison d'intervenir militairement en Centrafrique ? On parlera plus tard de l'ONU. Et finalement, pour quel aboutissement, Jean-Pierre Tucois ?
Alors, est-ce que la France avait raison d'intervenir ? Chacun a son avis sur la question. Moi, je pense que oui. Je pense que à cause de l'histoire, justement, à cause du fait que c'est une ancienne colonie française, les gens parlent français en Centrafrique, il y a des liens multiples, on ne pouvait pas rester à l'écart. Je pense aussi qu'on aurait dû intervenir beaucoup plus tôt. Des personnalités centrafricaines avaient alerté Paris sur ce qui était en train de se passer, l'arrivée de la CDK. Ces gens-là n'ont pas été entendus. Et donc la France est intervenue, mais trop tardivement, avec des mois de retard. Si on était intervenu beaucoup plus tôt, je pense qu'on aurait pu épargner à ce pays une vague de violence qu'elle a connue. Mais il fallait intervenir. Maintenant, c'est la suite qui pose problème.
Qu'est-ce la qu'on suite et maintenant, c'est ça que c'est oui. ça que vous dites, Christian Bouquet. Vous partagez ce que vient de dire Jean-Pierre Tuquois sur l'intervention française. Et finalement, est-ce qu'on peut imaginer la France revenir en Centrafrique, étant donné la situation que connaît le pays à nouveau et peut-être une certaine incapacité de l'ONU qui a probablement des choses à revoir dans ce type de mission, Christian Bouquet?
Oui, alors c'est sans doute un peu cynique, mais la politique internationale est cynique. C'est sans doute un peu pour ça que Sangaris s'est retiré. C'est pour forcer un peu les autres à prendre leurs responsabilités. La France en Centrafrique a fait la même chose que ce qu'elle avait fait au Mali. Personne ne voulait y aller. Elle y est allée au nom de l'héritage colonial et des devoirs qu'elle avait auprès de ses anciennes colonies. Elle l'a fait en Centrafrique, seule, hein, comme au Mali d'ailleurs, sans même l'Union européenne lui apporte le moindre soutien. Elle a fait tout à fait naturellement passer le relais à une force, la MINUSCA, donc aux Nations Unies, dont on sait que ce soit au Mali ou en Centrafrique, ou bien ce sont des soldats qui ne sont pas vraiment bien rodés pour assurer la stabilisation de la situation, puisque c'est leur mandat, pour contribuer au rétablissement de l'autorité de l'État, mais qui en plus ont probablement des règles d'engagement qui ne leur permettent pas d'intervenir lorsqu'il y a des massacres, lorsqu'ils assistent à des massacres. On entend souvent dire la MINUSCA est là, mais elle ne sert à rien. Et on pourrait inverser peut-être la phrase, c'est-à-dire elle ne sert à rien, mais elle est là, ce qui limite un peu les dégâts. Mais c'est vrai qu'il va falloir probablement donner des mandats plus robustes et des moyens d'intervention plus forts à cette force des Nations Unies.
Alors en tout cas, c'est le sens de l'intervention du président centrafricain cette semaine à New York à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Le président Touadéra qui a demandé est-ce qu'on n'oublie pas la Centrafrique et qui demande un renforcement puisque la mission des Nations Unies est appelée à être renouvelée en novembre prochain. Ce sont 12 000 hommes, hein, Jean-Pierre Tuquois, et finalement 12 000 hommes pour un pays, la Centrafrique, qui est aussi grande que la France et la Belgique réunis, c'est donc pas grand-chose.
C'est pas grand-chose, mais la population de Centrafrique n'est pas très importante non plus. Il n'y a pas de recensement depuis des décennies, mais enfin, c'est combien, 5 millions d'habitants, peut-être. Donc 12 000 hommes, c'est pas mal non plus. Non, c'est Christian Bouquet a fait remarquer très justement que le mandat des casques bleus n'est pas très robuste, que les règles d'intervention sont très strictes, et finalement, ils interviennent assez peu parce qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir. Donc je crois que c'est le mandat même qui doit être remis en cause. C'est pas une question de nombre, je pense, c'est plutôt une question de mandat. Il faut vraiment qu'ils aient la possibilité d'intervenir et de faire ce pour quoi ils ont été envoyés. Et on en est loin. Donc tant que c'est comme ça, je ne vois pas vraiment d'issue.
Ce qu'il faut donc, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire l'un et l'autre, Christian Bouquet, Jean-Pierre Tuquois, c'est voir la mission de l'ONU sur place être considérablement modifiée. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a une capacité de containment des acteurs du conflit, mais pas une capacité d'influence sur eux. De même que les outils de coercition habituels ne fonctionnent plus en Centrafrique comme ailleurs depuis longtemps. L'embargo sur les armes et les sanctions individuelles ne font plus peur, car elles sont inappliquées, et notamment par les États voisins. Jean-Pierre Tuquois, un commentaire ?
Effectivement, les États voisins sont des États qui ont, d'une part, donc je le disais tout à l'heure, des tas de problèmes. C'est tout sauf pacifié. Donc, vous ne pouvez pas espérer que le Centrafrique retrouve la sérénité qu'il avait avant, il y a longtemps, si les pays voisins sont à feu et à sang, enfin s'il y a des tas de problèmes. Vous voyez ce qui se passe au Tchad. Le Tchad est un acteur important dans le conflit en Centrafrique. Vous voyez également que le Tchad a ses propres problèmes. Donc tout ça est lié. Vous pouvez pas espérer rétablir l'ordre en Centrafrique si les pays voisins sont eux-mêmes plongés dans des tas de crises graves. C'est fondamental. On ne pourra pas stabiliser le Centrafrique si tous les acteurs régionaux ne se sont pas réunis et eux-mêmes n'ont pas trouvé une solution à leurs propres problèmes. Je crois que c'est un conflit régional finalement. Regardez ce qui se passe avec l'Ouganda. Vous avez cité tout à l'heure le pasteur Kony, la LRA, donc c'est les fous de Dieu du pasteur Kony qui sont en fait installés en Centrafrique. Donc tout ça est lié, incontestablement.
Tout cela est lié, l'importance du Tchad et de l'environnement régional sur la situation en Centrafrique. Nous poursuivrons dans la deuxième partie de l'émission. Nous retrouvons nos invités Christian Bouquet, Delphine Lecoutre et Jean-Pierre Tuquois dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Centrafrique. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Bordeaux. Christian Bouquet, professeur émérite à l'Université Bordeaux-Montaigne, membre du laboratoire Les Afriques dans le monde, Sciences Po Bordeaux. En studio à Paris, Delphine Lecoutre, coordinatrice République Centrafricaine, Tchad et Gabon pour Amnesty International France, et Jean-Pierre Tucquois, ancien journaliste au journal Le Monde et auteur de Ubangi-Chari, le pays qui n'existait pas, aux éditions La Découverte. Je le rappelle, Christian Bouquet, la Centrafrique, 4,5 millions d'habitants, à peu près 5 millions, disait Jean-Pierre Tucquois tout à l'heure. C'est vrai que je pense que ce pays n'a pas le soin de faire des recensements.
Personne n'en sait rien.
Personne n'en sait rien. Un pays enclavé au centre du continent, voisin du Tchad, du Soudan du Sud, de la République démocratique du Congo et du Cameroun. Un pays qui ne parvient pas, on l'a évoqué dans la première partie de l'émission et on poursuit maintenant à se sortir des plus grandes difficultés. Christian Bouquet, l'environnement régional de la Centrafrique explique en partie la situation intérieure du pays.
Ben oui, avec la porosité des frontières, hein, la Centrafrique est entourée de voisins plutôt agités. On a dans toute la frontière nord-est le Sud-Soudan, dont on sait qu'il est en plein chaos depuis plusieurs années, et dont du Sud-Soudan viennent et repartent des milices armées. C'est d'ailleurs de là dont est venue la Séléka au début de l'insurrection. Vous avez au sud la frontière avec la RD Congo, en grande partie avec la RD Congo, une frontière également très poreuse, et c'est la partie de la RD Congo aussi la plus agitée, puisqu'elle n'est pas contrôlée par l'État. Donc vous avez un voisinage, en tout cas, qui n'est pas du tout stabilisateur, bien au contraire. Ça, c'est un des problèmes aussi que rencontre la configuration centrafricaine.
Delphine Lecoutre, un commentaire sur l'environnement régional. On se pose souvent la question de savoir si finalement, avec ce qui se passe en Centrafrique, la stabilité de la région est menacée, mais c'est l'inverse aussi, c'est-à-dire que c'est tout un ensemble qui fait, comme l'expliquait Christian Bouquet, la porosité des frontières. C'est toute une région au centre du continent africain qui est particulièrement soumise à beaucoup d'aléas et beaucoup de violences.
Tout à fait. Les États de la région, les États voisins sont partie du problème et partie de la solution. On peut absolument pas les exclure, sachant d'autant plus qu'il y a aussi parmi les troupes aussi de la MINUSCA un certain nombre de pays contributeurs tels que le Sénégal, l'Égypte, le Maroc, le Burundi, le Rwanda, qui doivent être aussi intégrés donc aux discussions.
Jean-Pierre Tucquois, on évoquait dans la première partie de l'émission cet appel lancé par le président Touadéra à New York sur un renforcement du contingent onusien dont le mandat est appelé à être renouvelé en novembre prochain. On évoquait la difficulté de la mission de l'ONU qui manque totalement de coercition. Alors, avant de connaître les décisions qui vont être prises à New York, premier bilan de la mission de la MINUSCA, il est plutôt négatif, c'est un échec.
C'est un échec, oui, incontestablement. C'est un échec puisque en 3 ans, finalement, le pays n'a pas retrouvé la paix et la sérénité. C'était une espèce de coup d'épée dans l'eau, cette histoire-là. Aussi bien d'ailleurs l'intervention française. Les Français sont arrivés, sont repartis donc en fin d'année dernière, mais sans que le cas centrafricain soit résolu. Donc oui, c'est un échec pour la France, c'est un échec pour la communauté internationale. Et franchement, à l'heure qu'il est, je vois pas très bien comment on va s'en sortir. À moins que la France ne revienne militairement. Mais sinon, ce pays continue à s'enfoncer et c'est un échec pour la communauté internationale. C'est pour elle, le cas centrafricain, c'est rien, c'est epsilon. C'est un dossier parmi d'autres dossiers qui sont beaucoup plus graves. Donc finalement, on s'intéresse pas beaucoup au sort de ces populations civiles.
Un réengagement de la France est-il possible? On n'en sait pas grand-chose. Ce qu'on ressent, c'est en tout cas un avis partagé par pas mal d'observateurs, on a l'impression d'une fiction autour de la Centrafrique. Comme si finalement tout le monde faisait un petit peu semblant. Alors on fait semblant de beaucoup de choses. On fait semblant de croire qu'il y a toujours un État en République centrafricaine. Alors qu'il y aurait des mesures, et on les connaît, des mesures à prendre, notamment en termes d'impunité, vous l'évoquiez précédemment, avec la création de la Cour pénale spéciale, une création qui s'est faite en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Apparemment pas grand-chose, Delphine Lecoutre.
Pas suffisamment, en tout cas. La Cour pénale spéciale, en fait, elle a été créée en juin 2015. Il y a des secondes. C'est une cour qui est hybride. Elle se compose de juges et de personnels à la fois centrafricains et internationaux. Et cette cour pénale spéciale, elle est chargée d'instruire et de juger les violations graves des droits humains et les violations sérieuses du droit international humanitaire commises donc en Centrafrique depuis janvier 2003. Sauf que pour lutter contre l'impunité en Centrafrique, il y a cette cour pénale spéciale et il y a aussi l'action de la cour pénale internationale qui a commencé en fait des enquêtes en septembre 2014. Mais cette cour pénale internationale ne jugera probablement qu'une poignée de suspects. Et il y a aussi le rôle du système judiciaire national, ceci dit qui est confronté à un certain nombre de faiblesses parce qu'il est très fragile. Beaucoup de tribunaux ont été détruits. Il doit être complètement refondé, ce système judiciaire national. On doit remettre sur pied des tribunaux, des prisons, des forces de police, parce que lors de tous ces combats, les bâtiments ont été détruits, les dossiers ont été détruits, le personnel judiciaire a été inquiété par les groupes armés. Donc certains même ont été contraints à fuir. Voilà. Donc, il y a vraiment un certain nombre de faiblesses dans ces institutions et les enjeux se trouvent là. Ceci dit, on peut ajouter que cette cour pénale spéciale, elle n'est pas encore opérationnelle parce qu'il y a encore des fonds qui doivent être versés, du personnel qui doit continuer à être recruté, même si le procureur pénal spécial, M. Mutanzani, a déjà été nommé. Donc, les défis sont très nombreux.
Alors, je reviens à ma question de la fiction, parce que finalement, quand on entend les descriptions que nous fait Delphine Lecoutre sur le renforcement des mécanismes judiciaires, etc., on a vraiment l'impression que là se joue une sorte de farce. Alors oui, on pose des éléments, mais tout ça me semble creux. C'est du théâtre, Jean-Pierre Tucquois.
C'est du théâtre, oui, le Centrafrique, c'est du théâtre, et c'est du théâtre depuis longtemps. Il n'y a plus d'État, non seulement il n'y a plus d'État, mais je pense qu'il n'y a pas encore de pays. Ça prend du temps de constituer un pays. L'histoire de la France, ça a pris des siècles. Je pense que pour le Centrafrique, ça va être pareil, quoi. Donc, on essaie de brûler des étapes. On a cru que parce qu'on donnait l'indépendance à nos anciennes colonies, ils allaient devenir des pays. Bon, ben, c'est pas le cas. On les a pas accompagnés comme on aurait dû le faire. On les a pas préparés, je pense, à acquérir leur indépendance. Donc, de ce point de vue-là, la responsabilité de la France est engagée, elle est énorme. On est en partie responsable de ce qui se passe encore aujourd'hui, et c'est pour ça, je crois, que on a raison de continuer à s'intéresser à ces pays-là et à faire ce qu'on aurait dû faire bien avant. Mais oui, c'est un théâtre, c'est un théâtre.
Christian Bouquet, c'est un théâtre ?
Oui, alors c'est un peu dur comme expression, parce que ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est désespérant, je pense. Alors comment s'en sortir ? Ben, c'est à peu près la même chose qu'au Mali. Il faut replacer les populations qui ont été déplacées dans leur territoire d'origine et puis leur redonner confiance, probablement en lançant des grands programmes de développement, ce qui n'a pas été fait pour diverses raisons dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais en particulier parce que pendant longtemps les bailleurs de fonds n'ont pas trop soutenu le secteur rural. Or, la Centrafrique est un pays essentiellement rural, comme le disait tout à l'heure Jean-Pierre Tucquois, il pourrait non seulement nourrir tout le pays, mais nourrir les pays voisins. Donc relancer des grands programmes de développement pour redonner confiance aux populations, pour occuper les jeunes, pour faire en sorte qu'ils aient d'autres avenirs que l'avenir de se battre. Mais tout ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on est confronté à une crise africaine et on ne le fait jamais.
Nécessité de mettre sur pied des programmes de développement, c'est évidemment indispensable là où on voit des jeunes ruraux rentrer dans les milices, parce que finalement, là aussi, c'est une source de revenus pour eux, là où il n'y en a pas par ailleurs. Jean-Pierre Tucquois, pour ça, je passe la parole à Delphine.
Moi, il y a une chose qui m'avait frappé quand j'y étais allé pour la dernière fois, c'est que dans des anciennes casernes à Bangui et en dehors de Bangui, vous avez des centaines de jeunes qui appartenaient d'ailleurs à la CDK. Et ces gens-là, ce qu'ils réclamaient, c'est d'être intégrés à l'armée. Pour eux, ils ne voyaient de solution qu'en étant militaires, être embauchés, payés par l'armée. Mais c'est absurde. Évidemment qu'un pays comme le Centrafrique, donc l'ancienne Oubangui-Chari, n'a pas besoin d'une armée de 5 000 hommes, 10 000 hommes. C'est trop coûteux. Ce n'est pas un enjeu de ces gens-là. Il faut les reconvertir. Il faut qu'ils deviennent paysans, agriculteurs. Et ça m'avait frappé parce que quand vous dites à ces jeunes qui sont en force de l'âge, vous leur dites mais il faut faire un autre boulot, votre salut c'est pas de devenir militaire, on n'a pas besoin de ça. Ben, ils comprennent pas. Pour eux, ils ont été militants, miliciens, tout ce que vous voulez, et donc ils doivent être militaires. C'est ce genre de choses, je crois, qui pèsent sur le pays. Après, la solution, moi, je crois qu'il faut que le pays soit sous tutelle internationale. C'est pas à la France à être en tête de ce mouvement-là. Elle a une responsabilité importante, mais je pense que c'est plutôt le système des Nations Unies qui doit inventer quelque chose pour que ce type de pays puisse être stabilisé et se développer.
Delphine Lecoutre.
En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse dire que la Centrafrique soit un théâtre pour les populations centrafricaines. Parce que des milliers de personnes de tous bords qui ont vécu l'horreur des massacres, qui ont dû fuir de chez elles du jour au lendemain, qui ont perdu des proches, vivent des exactions donc au quotidien, et elles vivent donc des réalités de souffrance. Et donc cette la thématique de la protection des populations civiles, d'ailleurs, que le président Macron avait promis à Amnesty de mettre au centre de ses priorités et qui a été rappelé par le ministre de la Défense français Jean-Yves Le Drian dans son discours devant l'Assemblée Générale, c'est d'être vigilant pour la protection des populations vulnérables et dans le domaine de la lutte contre l'impunité des crimes internationaux.
Alors l'impunité des crimes, c'est peut-être une peut-être s'intéresser quelques instants sur cette notion. Bon, il est évident qu'il faut y mettre un terme, mais ce dont il est beaucoup question tout de même en Centrafrique, Christian Bouquet, je me tourne vers vous, c'est de faire de l'amnistie une piste de solution. Ça paraît totalement antinomique par rapport à la réalité et aux aspirations de la population centrafricaine.
Oui, malheureusement, c'est souvent le prix à payer pour aboutir à une réconciliation. On l'a vu dans énormément de crises, et je crois que la plus connue, ça a été la crise algérienne et de la décennie noire. Les mesures d'amnistie et de pardon qui ont été accordées, y compris financièrement, ont effectivement abouti au rétablissement de la paix civile dans ce pays, mais ont continué à nourrir, et nourrissent encore d'ailleurs, de très lourdes frustrations. Alors on est dans une situation extrêmement paradoxale, hein. Bien sûr qu'il faut pas qu'il y ait d'impunité, bien sûr qu'il faut pas qu'il y ait d'amnistie, mais si c'est le prix à payer pour revenir à la paix, il faut y réfléchir à deux fois. Alors je voudrais revenir peut-être sur la protection des populations civiles. La protection des populations civiles, c'est extrêmement difficile à accomplir sans un mandat robuste, comme on disait, sans des règles d'engagement qui changent. Protéger les populations civiles, c'est envoyer un détachement là où elles sont menacées et quasiment tirer à vue sur leurs agresseurs. Et ça, dans les règles de droit international, c'est pas encore tout à fait prévu. Donc c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire. Je pense que le président Macron parlait de quelque chose qu'il ne connaissait peut-être pas tout à fait, et que Le Drian devra lui expliquer, sans doute, c'est que pour protéger les populations civiles, notamment en Centrafrique, qui est un très grand pays, avec des voies de communication qui sont impraticables, et puis des théâtres d'opération, alors là c'est le cas de dire, des théâtres d'opération qui sont multiples, je vois pas très bien comment on peut l'assurer.
Jean-Pierre Tucois, vous évoquiez la nécessité d'une tutelle internationale, avis partagé d'une certaine manière par Christian Bouquet. La Centrafrique est déjà aujourd'hui quasi un protectorat. Donc c'est aller un degré au-dessus pour fixer des règles.
Oui, c'est un protectorat d'une certaine façon. Oui, vous avez raison. Mais enfin, il y a quand même un président de la République, il y a un gouvernement. Il y a tout ce qui fait un État. Ça existe au moins sur le papier. Mais on n'est pas vraiment sous tutelle. Je crois qu'il faudrait aller plus loin. Et je crois qu'effectivement, il faut inventer un système tel que dans des cas de crise comme celui que connaît ce pays-là, ce soit les Nations Unies qui fassent tourner le pays le temps qu'il faudra. Je vois pas d'autre solution. Parti comme on est, je pense que Centrafrique va finir comme la Somalie si on continue comme ça. Alors qu'est-ce qui reste? Société civile, il y en a pas. La classe politique est quand même pas très brillante. Il reste l'Église ou les Églises.
Justement, quel rôle à attendre des Églises?
Jusqu'à présent, elles ont un rôle positif et heureusement qu'elles sont là, on peut se dire. Moi, j'ai été frappé, la visite du pape François, quand a été quelque chose de très important, et je crois qu'il a servi à arrêter la violence pendant un bon moment. Et je me souviens à Bangui, moi j'étais allé écouter la messe pour voir à quoi tout ça ressemblait, et les évêques à Bangui, avait bien insisté, avait repris le discours du pape François en disant, bon, voilà, il faut pas lâcher prise, voilà ce qu'a dit le pape, voilà, il faut y aller. Et le pape, je sais pas si vous vous souvenez, mais il est allé voir l'imam à la mosquée de Bangui, à la mosquée centrale, il l'avait amené dans sa papa mobile. Enfin, il avait eu des gestes assez forts qui ont peser politiquement. Et je crois que donc les églises, de façon générale, aussi bien les protestants, les catholiques que les musulmans, ils ont une partie de la solution. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que l'église catholique est très critiquée par l'entourage du président, du chef d'État, et c'est pas simple pour eux. Mais faute de mieux, je crois que les églises, c'est un élément important et qu'elles ont une grande part de responsabilité pour stabiliser le pays et le sortir de la crise.
Des critiques qui portent sur quoi, Jean-Pierre Turquois, à l'encontre de l'église catholique
Justement, parce que l'église catholique défend les musulmans. Et pour une partie de l'entourage du président Touadéra, qui sont très anti-Balaka et donc anti-musulmans aussi, eh ben c'est pas très bien. Donc l'Église est un peu en porte-à-faux aujourd'hui et très critiquée.
Christian Bouquet, commentaire.
Eh ben rappelez peut-être que la communauté musulmane est très minoritaire en Centrafrique. Elle représente à peine, enfin c'est vrai qu'on n'a pas de recensement récent, mais à peine 15% de la population. Et ce sont essentiellement les commerçants des grandes villes et puis les éleveurs peuls du grand nord-est du pays. Donc on n'est pas dans une configuration où les musulmans qui luttent contre le pouvoir central sont des djihadistes. Ils ne le sont pas. Mmh. Bozizé, quand il a été écarté du pouvoir, avait essayé d'agiter ce drapeau en disant « Là, la communauté internationale va bouger. Si je leur dis que le terrorisme djihadiste est aux portes de la Centrafrique, ils vont venir. » Et les gens ne l'ont pas cru. Alors c'est une situation qui encourage à penser peut-être qu'il y a des risques de génocide avec toutes les précautions prises par la représentante d'Amnesty International autour du mot génocide sur des bases ethniques ou religieuses, mais il faut tout de même rester prudent, notamment parce que les grandes religions, comme vient de le souligner Jean-Pierre Turquois, continuent à fonctionner ensemble, du moins au niveau de Bangui.
De Bangui, la capitale. Delphine Lécoutre, un commentaire.
En tout cas, on peut noter qu'il y a la fondation Sant'Egidio qui a participé à la médiation des accords de cessez-le-feu. Donc, il y a une implication de l'Église catholique. Et d'ailleurs, il y a des ONG tant musulmanes que chrétiennes qui travaillent d'ailleurs avec Amnesty sur des programmes de formation, notamment par rapport aux victimes, aux témoins d'exactions, etc.
En guise de conclusion, Jean-Pierre Turquois, Christian Bouquet, sur les priorités pour la Centrafrique.
Les priorités, je crois qu'on les a largement évoquées. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai peut-être donné le sentiment d'avoir une vision très très négative, trop pessimiste de la situation. Et je voudrais corriger un peu tout ça. C'est vrai que c'est un théâtre sanglant et on peut pas rester indifférent devant le drame que connaissent ces Centrafricains qui sont déplacés, Ceci dit, je voudrais terminer sur une note peut-être plus positive, comme j'ai essayé de le faire dans le livre d'ailleurs, ou dans un coin paumé à l'extérieur de Bangui, à une centaine de kilomètres de Bangui. J'étais tombé sur un instituteur qui était en costume, cravate, dans une école qui a été à moitié détruite, enfin plusieurs bâtiments étaient détruits, et lui était très digne dans son allure et dans son comportement. Il avait des cahiers à côté de lui sur lesquels il notait la vie quotidienne de son école. C'est une école de filles. Et quand je l'ai vu, ça m'a un peu illuminé, quoi. Je me suis dit, bon, ben voilà, il y a quand même des éléments positifs. Il y a des gens qui croient encore en leur travail, qui essaient de le faire bien. Et s'ils sont suffisamment nombreux, peut-être que c'est eux qu'on écoutera, qui vont réussir à se faire entendre et que le pays s'en sortira.
Tout s'écroule, mais des individus qui parviennent à se maintenir debout. Voilà. Si vous permettez, Delphine Lécoutre et Christian Bouquet, je laisserai cette conclusion de Jean-Pierre Turquois pour cette émission consacrée à la Centrafrique. Christian Bouquet, merci. Je rappelle que vous étiez par téléphone depuis Bordeaux, que vous êtes professeur émérite à l'Université Bordeaux-Montaigne et membre du laboratoire Les Afriques dans le Monde de Sciences Po Bordeaux. Delphine Lécoutre, coordinatrice République Centrafricaine, Tchad et Gabon pour Amnesty International. Et Jean-Pierre Turquois, donc ancien journaliste au journal Le Monde, auteur de Oubangui Chari, le pays qui n'existait pas, aux éditions La Découverte. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À très bientôt.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr.